chapitre 10, nous allons continuer dans notre série d'études des grâces que le Seigneur réserve pour chacun de ses enfants, pour nous, pour moi. Et donc, dimanche dernier, nous avons vu que nous avions un consolateur et un avocat pour moi. Et aujourd'hui, eh bien, la Bible nous dit que j'ai un bon berger pour moi. Donc, Jean chapitre 10, et j'espère que vous n'allez pas vous dire « Oh, ben, j'ai déjà entendu Jean chapitre 10, je connais bien Jean chapitre 10, je sais tout ce qu'il y a dedans. » Eh bien, je vous confesserai que moi, j'ai appris des choses en préparant cela. Donc, j'entends parler de Jean chapitre 10 depuis plus de 50 ans. Alors, voilà, nous pouvons toujours apprendre. La parole de Dieu est inépuisable. Et je ne dis pas ça juste pour le dire, elle est réellement inépuisable. Vous savez, une information que je découvre, et je comprends mieux pourquoi le Seigneur nous appelle des brebis, c'est parce que la brebis a une très mauvaise vue. Elle ne voit pas loin. Elle a un champ de vision qui est très large. Elle peut voir même derrière elle sans tourner la tête, hein, la 360 degrés hein, de champ de vision, mais elle ne voit pas loin. Ce qui explique pourquoi les brebis restent ensemble, parce qu'elles ne voient pas loin, donc elles ont besoin de voir les autres brebis, d'où cette expression des brebis de Panurge, hein, elles se suivent. Et elles restent en troupeau, parce que justement elles ne voient pas. Mais donne de l'importance au fait qu'elles aient un berger. Elles ont besoin d'un berger, elles ont besoin de le voir, et pour le voir et pour le suivre, elles doivent le suivre de près. L'aigle a des yeux extraordinaires qui arrivent de voir une petite souris d'une très haute altitude. Mais la brebis doit suivre le berger de près si elle veut le suivre. Elle doit au moins être avec les autres brebis qui suivent le berger. Et c'est vrai, c'est le cas, souvent dans les brebis, il y a les premières brebis qui voient le berger, puis après il y a les autres brebis qui suivent les brebis. Bon, elles arrivent toutes à la même adresse, hein, c'est sûr. Mais vous savez, les enfants de Dieu aussi, hein, nous avons, en tant qu'êtres humains, mais on prétend voir beaucoup de choses, mais s'il fallait regarder dans la vie, on voit les gens qui font des bêtises tout le temps, qui sont en train de faire des choses qui les détruisent. Et pour l'être humain n'arrive pas, il regarde le plaisir d'aujourd'hui et il ne voit pas où ça le mène. Et c'est vrai que nous sommes comme des brebis. Et deuxièmement, une chose que j'ai remarquée, c'est que dans l'expression « le bon berger », le mot « bon » en français n'a pas le même sens que « bon » dans le grec. En français, quand on dit « c'est bon », on dit « c'est un bon garçon », c'est-à-dire « bon, il est correct ». On dit « c'est un bon gâteau », c'est parce que ça me fait plaisir quand je le mange. On peut dire que c'est un bon travail parce que ça a été fait correctement. Oui, mais tous ces sens de bon en français ne correspondent pas au berger dont parle la Bible. Et ce que je vais vous énumérer, hein, je vous lis carrément la définition du mot bon tel qu'il est dans le grec. Il a le sens de beau, d'accord, excellent, éminent, le fait d'être de choix, qui surpasse, précieux, utile, louable, admirable. Et donc, en fait, quand on dit le bon berger, on doit penser l'honorable berger, celui qui est digne d'honneur, celui qui remplit pleinement cette fonction. Ce n'est pas seulement celui qui me donne ce que j'aime. Hein. Quand j'ai faim, j'ai une bonne herbe. Quand j'ai soif, j'ai une bonne eau. Ce n'est pas seulement celui qui plaît et qui remplit mes désirs, mais celui qui est digne de mon adoration, qui est digne de ma confiance, celui qui est éminent et qui est premier dans ma vie. Et c'est là le sens de bon berger. Le berger dont Jésus nous parle, il dit ici dans Jean chapitre 10, et nous allons lire les premiers versets là. Donc si vous êtes là dans Jean chapitre 10, je vais lire les premiers 6 versets. C'est une parabole, mais il nous dit « en vérité, je vous le dis ». Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entrent. Excusez-moi. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ce que nous allons voir, ce n'est pas la parabole, mais nous allons voir le berger et sa relation avec les brebis, tel que Jésus l'a décrit. Donc premièrement, nous verrons que les brebis appartiennent au berger. Deuxièmement, qu'elles sont connues du berger. Troisièmement, elles entendent l'appel du berger. Quatrièmement, elles sont soignées par le berger. Cinquièmement, elles sont rassemblées par le berger. Donc premièrement, les brebis appartiennent au berger. Ici, dans cette parabole, le berger se présente à la bergerie où les brebis ont été laissées pour la nuit. Il y avait un portier, il y a un gardien qui veillait sur elles. Et le matin, le berger arrive et puis il y a les brebis qui appartiennent à plusieurs bergers. Elles sont toutes parquées là dans cette bergerie. Et alors il nous dit, eh bien, le berger vient et il appelle ses brebis, celles qui lui appartiennent. Et d'où cette expression que des brebis lui appartiennent, elles sont à lui. Et pour montrer à quel degré il considère cela comme vrai, combien elles sont vraiment à lui, eh bien, c'est le fait qu'ils nous disent. Au verset 11, il dit « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Vous savez, on ne donne pas sa vie pour ce qui n'est pas à nous. Et c'est là où il souligne le fait combien, dans son esprit, nous sommes ses brebis. Il dit « Je suis prêt à mourir pour elles ». C'est comme si vous voyez deux enfants dans la piscine en train de se noyer. L'un est le vôtre, l'un est à quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. C'est lequel que vous allez essayer de récupérer le premier. On prend ce qui est à nous. C'est-à-dire ce geste de se jeter, s'exposer pour sauver, eh bien montre que c'est bien. C'était comme ça, vous souvenez le cas des deux prostituées qui avaient chacune un bébé à l'époque de Salomon. Et comment est-ce que Salomon a pu savoir à qui appartenait le bébé vivant? Parce qu'il y en a un qui est mort, il y en a un qui est vivant, et puis chacune disait, c'est le mien. Et il a dit, eh ben, écoutez, on va partager en deux alors. Et puis il y a une maman qui dit, oh, non, de grâce, donne-lui, mais laissez-le vivre. Et Salomon a dit, ça c'est la maman. Vous savez, quand on est prêt à faire le sacrifice. Et là, il dit, je suis le bon berger, ces brebis m'appartiennent, et vous savez ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que je suis prêt à mourir pour elles, Et en effet, Jésus mourra pour nous, ses brebis. Il a dit, vous voyez la différence entre le vrai berger et les faux bergers. Il a parlé dans le verset 12, il parle du mercenaire. Il dit, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit, les disperse. Il dit, on voit très vite qui est le berger. Le mercenaire dit, c'est pas moi, je ne vais pas risquer ma vie. Le berger dit, ce sont mes brebis, je risque ma vie. Le mercenaire dit, je mets les brebis entre moi et le loup. Le berger dit, je me mets entre les brebis et le loup. Et c'est là où on voit le sens d'appartenir. C'est pas seulement je peux le vendre et je peux l'acheter. C'est pas ça dans ce sens-là. Il dit, c'est elles m'appartiennent parce que je les aime et je suis prêt à me sacrifier pour elles. C'est dans ce sens-là qu'il parle d'être, d'appartenir. Et donc, tous ceux et celles qui ont reçu le Seigneur comme sauveur, hein, Jésus-Christ, ils ont reconnu que Christ est mort sur la croix pour ses propres péchés, eh bien, et qu'il le déclare à Dieu, il dit, je place ma confiance en toi, je veux que tu, par ton sang, tu me purifies de tout péché, et je veux être à toi. Eh bien, par ce geste-là, eh bien, je lui donne le titre de propriété. Je dis, maintenant, je suis à toi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à Dieu et disent, écoute, voilà, puisque tu veux pardonner mes péchés, eh bien, écoute, vas-y, pardonne mes péchés, mais je continue ma vie. Toi, si ça te fait plaisir de pardonner mes péchés, vas-y, pardonne mes péchés, puis un jour, je te reverrai quand j'aurai besoin d'entrer au ciel. C'est pas ça, le sens. Le sens, c'est, écoute, moi, ma vie, elle est gâchée, je peux rien, je peux pas la sauver, je te donne le titre de propriété, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, je vis pour lui. Et lui existe pour moi. Vous connaissez bien le passage Ésaïe 53, et où justement il parle de nous en tant que brebis. Et Ésaïe 53 et verset 5, il dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ça, c'est le prix que le berger paye parce que les brebis sont à lui. Et il est prêt. Et il est mort, non pas d'une mort agréable, hein, c'est pas une injection là qui est tout d'un coup, on est, et puis après on n'est plus. Mais il était mort par le biais d'un instrument de torture, la croix. Et il l'a accepté, parce qu'il aurait pu descendre de la croix. Jésus-Christ s'est identifié au serpent d'airain dans le désert. Hein, dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque se tourne vers lui, il est sauvé. C'était dans Nombre 21 que l'on trouve l'histoire de serpent d'airain. Il dit au verset 17 et 18, donc Jean chapitre 10, verset 17 et 18, il dit, si je ne suis pas mort parce qu'on m'a tué, je suis mort parce que j'ai donné ma vie. Regardez ça. Chapitre 10, Jean 10, verset 17, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et vous savez que Jésus, sur la croix, il n'est pas mort parce qu'on l'a percé d'une lance, il est mort parce qu'il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et s'ils l'ont percé, c'était juste pour s'assurer qu'il était bien mort. Mais ils avaient le sentiment qu'il était déjà parti. On ne l'a pas tué. Il a dit, je donne ma vie. C'est volontairement que je la donne. Ça, c'est parce que les brebis lui appartiennent. et il comprend qu'elles lui appartiennent. Et pour lui, c'est une réalité. C'est plus sûr que le lever du soleil. Nous lui appartenons. Et c'est à nous où il y a le doute, c'est est-ce que nous comprenons que nous lui appartenons ? Le bon berger nous dit au verset 10, il nous dit, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi, le bon berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ah, quelle différence ! Pourquoi ? Parce que ce sont mes brebis. Elles m'appartiennent. Et donc, je veux pas seulement qu'elles survivent, mais je veux qu'elles vivent et en abondance. Que leur existence soit agréable. Les brebis appartiennent au berger. Deuxièmement, les brebis sont connues du berger. Le bon berger connaît ses brebis. Il nous dit au verset 14 et 15, regardez-moi ça. Verset 14 et 15, il dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. » Regardez le « comme » du verset 15. On sait ce que ça veut dire. « Comme », vous pouvez le remplacer par le petit signe « égal hein. ». Il dit « comme le Père me connaît et comme je connais le Père ». Il dit, mes brebis me connaissent, je les connais, au même degré où moi et le Père, on se connaît l'un l'autre. Il n'y a pas une connaissance à un plus haut degré que cela. Vous savez, le mot connaître dans l'Ancien Testament, pour vous qui l'avez lu, eh bien, vous savez que quand il parle de connaître, c'est le mot qu'il emploie pour exprimer la relation intime qui peut exister entre l'époux et l'épouse. Il la connaît. Et justement, là, il dit que le berger connaît ses brebis, mais c'est au même degré. C'est une connaissance, pas seulement, bon, je sais que ça existe, hein, comme... je sais que Tokyo, ça existe, mais jamais été, mais bon, je sais que ça existe. Non, c'est pas connaître dans ce sens, c'est dans le sens fort. Vous savez, il nous connaît tellement bien que dans Matthieu chapitre 7, verset 23, il nous parle de ces personnes qui viendront à Jésus, il dit « Seigneur, Seigneur !» Il dit « Éloignez-vous, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. »« Mais nous avons fait des miracles !» Il dit « Moi, je ne vous connais pas. » Ce n'est pas parce que nous, on dit qu'on le connaît. Ce qui importe, c'est que lui me connaisse et sache que je suis son enfant. Et ce n'est pas par de la mascarade, ce n'est pas en faisant du prêche et en apprenant des langages et en sachant manipuler la Bible qu'on le connaît. Il dit non, c'est pas le fait que tu as fait une éducation, que tu as été à l'institut biblique, que tu as un diplôme ou que tu as fait une formation par internet, ou c'est pas ça qui fait qu'on le connaisse. C'est cette relation intime que j'ai avec Dieu. On se parle tous les jours. Je cherche son désir, je cherche sa volonté, je veux lui plaire. Quand je sais qu'une chose lui plaît, je la fais. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu. C'est comme ça avec mon épouse. Avant qu'on se marie, je la connaissais. Elle était étudiante à l'Institut biblique. Mais quand on s'est marié, je connais autrement. Et si je sais qu'une chose l'irrite, eh bien normalement, je ne fais pas cette chose. Et quand je sais qu'une chose lui plaît, eh bien, ça m'encourage à le faire plus souvent. Tellement il nous connaît qu'il nous donne à chacun un nom. Il disait dans l'Apocalypse, nous recevons un nom. Chez lui, nous avons un nom. Et comme un berger a un nom pour ses brebis, il les connaît. Oreilles déchirées, la boiteuse, c'est des noms qui correspondent à la brebis. C'est comme ça qu'il les distingue. Si, quel serait le nom qui corresponde à ma vie chrétienne? Comment est-ce que le Seigneur m'appellerait s'il m'appelait du nom qui correspond à ma vie chrétienne? La boiteuse? La rebelle? Celle qui traîne toujours? Ou est-ce qu'il appellerait celle qui est toujours, c'est la fidèle, l'attentive, la reconnaissante, celle qui n'a que des yeux que pour moi? Vous savez, le berger connaît ses brebis. Elles le connaissent et il les connaît. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles me connaissent au point qu'elles arrivent à discerner ma voix. Elles arrivent à distinguer ma voix de toutes les autres voix. Et elles ne sont attentives qu'à une seule voix, celle du berger. Il paraît qu'un jour on a demandé à Madame Einstein si elle comprenait la loi de la relativité. Et elle aurait répondu, non, mais je connais Dr. Einstein. Vous savez, quelqu'un nous demande, est-ce que tu comprends ce que Dieu fait, l'œuvre de Dieu? Et non, je ne comprends pas, mais je connais Dieu. Je ne suis pas obligé de comprendre ce qu'il fait, mais je peux connaître sa personne. Et c'est la relation qui existe. Les brebis ne savent pas tout ce qui se passe dans la tête du berger, mais elles connaissent leur berger. Et elles savent qu'il désire leur bien. Le désir de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 et verset 10, il dit « Ah, de le connaître !» Son désir, c'était de connaître Christ. C'est le sentiment normal de l'enfant de Dieu. Dans Éphésiens 1, 17, Paul, dans sa prière pour les Éphésiens, il dit ce que je demande à la prière, c'est que vous connaissiez Christ. Parce que quand je le connais, je me comporte autrement. C'est quand je ne le connais pas que je le traite n'importe comment. Les brebis appartiennent au berger. Les brebis sont connues du berger, mais elles le connaissent. Troisièmement, les brebis entendent l'appel du berger. Regardez au chapitre 10, versets 3 et 4, il dit mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Elle distingue sa voix. Il y a d'autres bergers, il y a d'autres, mais elles ont l'oreille que pour la voix du berger. Et puis il nous dit qu'elles ne répondent pas à la voix d'un autre. Les autres voix, c'est pas seulement les faux docteurs, les faux enseignants et les fondateurs de sectes et des choses comme ça, des gens qui se prennent pour quelque chose. C'est pas seulement de pouvoir distinguer cela, mais parfois, vous savez, la voix qui détourne les enfants de Dieu, c'est pas celle qui vient de l'extérieur, mais c'est celle qui vient des désirs du cœur. Parfois, il y a cette voix qui monte et dit, tu n'aurais pas envie de faire ça? Ah si, j'aimerais. Ah, il dit, mais est-ce que c'est la voix du Seigneur ou est-ce que c'est la voix des désirs de ton cœur? Est-ce que ce sont tes désirs anciens? Est-ce que c'est la voix de ta chair? Ou est-ce que c'est la voix de l'Esprit qui te parle? Hein, donc le berger reconnaît la voix. Est-ce que nous avons tellement entendu la voix du Seigneur qu'on pourrait la reconnaître parmi 10 000? Quelqu'un fait une déclaration, au premier abord ça paraît bien, mais après quand on y pense, on dit non, ça, non, non, ça, c'est pas une parole du Seigneur, ça correspond pas. Et il dit non, ça m'intéresse pas, je reste avec ce que la Bible dit. Vous savez, dans Luc chapitre 15, il y a une parabole sur le berger qui va chercher la brebis perdue. À quel moment est-ce qu'elle est devenue perdue? Ben, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est lorsqu'elle ne voyait plus ni le berger ni les brebis. En fait, c'est là que commence son état d'égaré, c'est quand elle perd de vue le troupeau et elle perd de vue le berger. Elle ne peut plus l'entendre. Elle est hors portée de sa voix. Et vous savez, le berger, certainement qu'il a remarqué qu'elle n'était plus là. Mais il est quand même rentré jusqu'à la bergerie. Il a parqué les 99 et ensuite il est sorti. C'est pas dès qu'elle s'égare, dès qu'elle était perdue, il a arrêté tout et puis elle a dit « bon, je vais aller chercher ». Non, non, vous savez, parfois, le bon berger laisse la brebis un peu perdue pendant un temps pour qu'elle se souvienne, pour qu'elle se fasse vraiment peur. Oh, il ne va pas la laisser comme ça exposée au loup. Mais peut-être qu'il va la laisser un peu et puis qu'elle goûte un peu à ce que c'est que d'être sans le berger. Qu'elle goûte un peu à ce que c'est que d'entendre des bruits qui font peur, de voir la nuit tomber et d'être exposée comme ça, sans protection, sans les autres brebis, parce que c'est gênant pour une brebis de ne pas être parmi d'autres brebis. Et il la laisse pendant un temps, ensuite il va la chercher. Vous savez, dans notre vie spirituelle, parfois le Seigneur fait cela aussi. On s'égare, on s'emporte, on s'éloigne, et puis il ne nous arrive rien du tout. Il n'y a ni des coups de bâton, ni de la foudre, ni rien du tout. Finalement, ça se passe bien. Je pense plus au Seigneur, mais ça va très bien. Mais sachez que le loup berger n'a pas perdu de vue sa brebis, mais la laisse un peu, parce qu'il dit, ben, une fois qu'elle aura vécu la chose et qu'elle aura goûté à cela, peut-être qu'elle marchera plus fidèlement. Peut-être qu'elle me suivra de plus près la prochaine fois. Parce qu'elle saura ce que ça donne. Vous savez, c'est par amour qu'il le fait. C'est pas pour faire mal, c'est par amour. J'ai entendu que même, il est dit que les bergers, parfois, s'ils ont un agneau qui est constamment en train de s'égarer et qui est constamment en train de s'éloigner, eh bien, il est capable de casser la patte de l'agneau et après de la remettre en place. Mais parce qu'elle est cassée, donc il est obligé de la porter, et le temps qu'elle se rétablisse, et pendant qu'il la porte, eh bien, elle s'attache à lui, et après cela, elle ne l'abandonne plus. Bon, ça c'est radical. Mais vous savez, parfois, nous les humains, parfois on a besoin de quelque chose de radical, hein. Et il y en a qui peuvent même rendre témoignage qu'ils ont subi des traitements radicaux. Mais ce n'était pas parce que le Seigneur ne m'aime pas, mais c'est parce qu'il m'aime, justement. Parce qu'il est un bon berger. La brebis récalcitrante est considérée égarée et perdue à partir du moment où elle n'entend plus la voix, et à partir du moment qu'elle ne voit plus ni les autres brebis, donc on ne la voit plus à l'église, et elle ne voit plus le berger. Elle n'a plus de relation avec le berger. Elle est perdue. Même si elle va bien. Même si encore, s'il y a encore 2-3 heures de journée, et puis il y a de l'herbe, il y a tout ça, je suis très bien. Elle est perdue. Même si elle ne se rend pas compte encore, elle est déjà perdue. Et combien de chrétiens ne sont pas encore conscients qu'ils sont hors de portée du berger? Pourquoi? Parce qu'elles ont été après une touffe d'herbe quelque part. Parce que c'était le temps de rentrer, et puis j'ai vu cette touffe d'herbe. Elle va là-bas, puis le temps qu'elle finisse de brouter cette touffe d'herbe, il est où le berger? Et elle est perdue. Et combien de fois dans nos vies, parfois, on se laisse égarer par un petit désir, un petit détour. Vous savez, est-ce que quand je lis la Bible, est-ce que je lis les mots ou est-ce que je cherche à entendre la voix du berger? Est-ce que tu lis la Bible? Oui, je lis la Bible. Oui, mais tu lis comment? Est-ce que tu cherches à te nourrir, à entendre la voix? Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui? Le Seigneur veut des disciples, non pas seulement des gens qui cherchent un soulagement physique. Après que Jésus ait nourri les 5000 avec les 5 pains et les 2 poissons, le lendemain, ces gens cherchaient Jésus. Mais ils le cherchaient pour avoir encore un repas. Et il nous dit dans Jean chapitre 6, verset 15, que Jésus, eh bien, il est parti. Parce que ça n'intéresse pas des gens qui cherchent encore du pain. Il veut des disciples, des gens qui le cherchent, non pas le pain qu'il peut produire, mais qui cherchent sa personne et qui veulent être attachés à lui. Oui, les brebis, les vraies brebis du Seigneur, eh bien, quand elles entendent la voix, elles répondent, elles connaissent la voix du berger. Quatrièmement, les brebis sont soignées par le berger. Il prend soin d'elles. Il nous dit dans le chapitre 10, verset 9, il nous dit, il les fait rentrer et sortir par la porte. C'est lui qui fait tout. Il les sort pour les pâturages, il les rentre pour la protection. C'est lui qui il prend soin d'elles. David, le roi, avait été berger. Et un jour, il a dit, après quelques années de marche avec le Seigneur, il a dit, mais en fait, l'Éternel est mon berger. Il s'occupe de moi comme j'essayais de m'occuper de mes brebis. Vous connaissez bien le psaume 23, et le psaume 23, ce n'est pas pour être lu aux gens qui sont en mourante. Le psaume 23, c'est pour l'enfant de Dieu et dans sa vie de tous les jours. Et le psaume 23 doit décrire la vie que je mène telle que je la mène maintenant. Le psaume 23, je vais vous la lire. Allez-y, prenez le temps de trouver. Le psaume 23, je vais le lire en entier. Il dit, je connais. Oui, mais je connaissais, mais est-ce que vous avez médité sur les mots? Psaume 23, il dit, c'est un cantique de David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Une réalité. Je ne vais pas traiter ce passage maintenant, ça serait bien de le faire un jour, mais l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Parce que les brebis n'aiment pas l'eau trouble et n'aiment pas l'eau dans laquelle ont pataugé les autres. Elles veulent une eau limpide. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, l'Éternel, le bon berger, tu es avec moi. Tu dresses une table devant moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours. C'est C'est quelque chose que je vis maintenant, c'est pas quelque chose pour la fin, c'est quelque chose que je vis dès maintenant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il prend soin de nous. David pouvait rendre témoignage et par ce psaume, il rend témoignage. Et il nous dit, l'Éternel est comme un berger. Il est un bon berger. Et cette douce vérité est là pour nous rassurer et nous consoler. Ensuite, bien sûr, Jésus en tant que bon berger, eh bien, et qui prend soin, il est comme le... Il est un modèle pour des responsables d'église qui ont la fonction de pasteur, de berger. Eh bien, Jésus est le modèle et nous sommes encouragés à être responsables pour le troupeau du Seigneur. Oui. Les brebis appartiennent au berger, les brebis sont connues du berger, les brebis entendent la voix ou l'appel du berger, les brebis sont soignées par le berger, et puis les brebis sont rassemblées par le berger. Ce n'est pas les brebis qui se rassemblent et puis qui élisent un berger. C'est le berger qui rassemble ses brebis. Et ici, dans Jean chapitre 10, bien sûr, Israël est présenté comme la bergerie. Et donc, il dit, moi, en tant que le bon berger, je viens, je prélève mes brebis dans cette bergerie. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont Israël qu'ils sont sauvés, mais c'est parce qu'ils ont placé foi en Jésus-Christ qu'elles sont sauvées. Et beaucoup de ces brebis d'Israël, eh bien, la majeure partie croiront après Pentecôte et quelques-unes avant. Mais la majeure partie sera après Pentecôte et Pierre va se lever, il va prêcher et puis tout d'un coup, il y a ces milliers d'âmes qui vont se tourner vers leur berger. Mais ensuite, Pierre et Jean iront en Samarie et prêcheront la parole et de nombreux Samaritains viendront à Christ, c'est les autres brebis. Et puis ensuite, ils iront chez Corneille et prêcheront et là, un nombre de païens seront convertis, et puis le travail continuera, Antioche et ailleurs. Et justement, c'est cette parole que dit Jésus, Jean chapitre 10, verset 16, il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Il a dit, « J'ai des brebis dans cette bergerie, mais je les appelle, elles sortiront. » Il dit après, j'ai d'autres brebis qui sont dispersées dans la nature, j'irai les chercher, non pas pour les intégrer dans cette bergerie. Il a dit, je ne vais pas inventer de bergerie. Je ne vais même pas faire une nouvelle institution. Mais il dit, je vais faire un troupeau. Un troupeau, eh bien un troupeau, tant qu'il y a des corps vivants, le troupeau existe. Quand les corps vivants n'existent plus, quand les brebis n'existent plus, il n'y a plus de troupeau. C'est la définition de l'Église de Jésus-Christ. C'est pas une institution que même s'il n'y a personne, même si les bâtiments sont vides, l'Église existe toujours. Hein, ça, on en voit tout autour de nous. Hein. Tous les centres-villes, il y a une Église qui existe, même s'il n'y a personne dedans. Mais Jésus a dit, non, ce n'est pas des bergeries que je crée, mais c'est des troupeaux. Un troupeau, c'est composé de brebis, et uniquement de brebis. Et on ne peut pas mettre autre chose que des brebis. L'Église, la définition de l'Église de Jésus-Christ, ce sont uniquement des personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, peu importe où il a été les trouver, peu importe de quel marché elles viennent. Mais à partir du moment qu'il les intègre dans son troupeau, ce sont ses brebis. Il dit, c'est moi qui vais les chercher, c'est moi qui les rassemble. Et il va les chercher là où elles sont, et dans l'état où elles sont. Et s'il faut les porter, il les porte. Et s'il faut les nettoyer, il les nettoie. S'il faut les soigner, il les soigne. Mais il rassemble, il est dit, je suis en train de rassembler mes brebis. Et il y aura un troupeau et un berger. Et c'est lui. Et son projet, c'est de rassembler toutes ses brebis. Et il nous dit dans Galates chapitre 3, versets 26 et 28, Galates 3, déjà, il s'y met. Versets 26 à 28, je lis, dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Voilà le troupeau. On n'a plus le droit, une fois qu'on a quitté des bergeries, ou on a quitté, on ne porte plus ces étiquettes-là. Maintenant, il a dit, vous êtes tous troupeaux de Jésus-Christ. Et si nous sommes troupeaux de Jésus-Christ, eh bien, pour ne pas s'égarer, il faut garder les yeux fixés sur lui. Heureusement que pour les brebis, leur oui est meilleur que leur vue. Et donc, même si elles sont un peu, elles perdent de vue, mais elles peuvent encore entendre la voix, l'appel, et elles peuvent venir. Et donc, pareillement pour nous. Et donc, si je déclare Jésus-Christ comme mon berger, eh bien, je déclare en même temps que je lui appartiens. Ce n'est pas que lui m'appartient, je lui appartiens. Je dois entendre sa voix. Je dois suivre le berger, parce qu'une brebis qui ne suit pas un berger n'est pas sa brebis. Si j'appelle Jésus mon berger, est-il possible de ne pas le suivre ? Et de ne pas vivre pour lui, et de ne pas être dans son troupeau avec ses brebis. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole, te remercions pour ces images toutes simples. Elles sont à la portée de chacun. Elles sont simples mais profondes. Et nous trouvons une grande consolation dans ces images que tu prends de la nature. Et Père, nous te prions de nous aider, non seulement à nous contenter d'entendre des belles paroles, mais de voir ce qu'elles veulent dire pour chacun d'entre nous, dans notre vie, dans notre situation personnelle. Père, que ton nom soit glorifié parmi les tiens, et pour ceux qui ne sont pas encore dans ce troupeau, eh bien Seigneur, que tu les attires à toi, et qu'elles se joignent à ce troupeau. Seigneur, rassemble tes brebis de cette région. Au nom de Jésus-Christ. Amen.